Sué allemand, le sous-lieutenant Herbert von Winslow. En longeant ce mur jaune vers la synagogue, Klein sourit de cette opposition des noms dans leur consonance des grades et des états. Une opposition de caricature. Il se représenta les nations comme des enfants d'une classe, chacun enfermé dans ses manies, bien plus différent de tous les autres que les hommes entre eux ne le seront plus tard. Il se souvint d'Alcossé, cet animal devenu aveugle et qui lui avait dit plusieurs choses exactes. Avant le soir, il s'assit en face de la source romaine, en plein centre de la ville. La maison de sa famille était à deux pas. La pluie tombait toujours. « On ne flâne pas, ici », pensa-t-il en regardant les passants qui paraissaient savoir où aller. Ce n'était pas l'époque des cures et le temps ne se prêtait pas aux longues promenades. Il étira ses membres endoloris, secoua ses cheveux mouillés et dès qu'on lui eut apporté une bière, s'abîma dans la contemplation sereine des toits pointus, des murs peints et des lisières de la forêt où jaillissent d'autres sources. Le lendemain matin, il se promena dans la ville. Il n'y avait plus de famille à l'exception d'une sœur de son père qui habitait une maison de sieur sur la route de Rexhofen. Comme chaque fois, il fut la voir et resta près d'une heure sans parler devant un verre d'eau-de-vie, les coudes sur la table en chêne, dans l'odeur du cirage et des confitures. Elle ne parlait plus guère à personne et lui ne savait quoi lui dire. Il avait pour elle des messages de son frère, et elle était contente apparemment de le voir et de penser que tout ne s'était pas perdu. Tout le temps de leur rencontre, une petite bonne en tablier blanc se tint près de la porte, sans parler, sans bouger. C'était elle, probablement, qui avait mis ce gros bouquet de fleurs sur la table et disposé les petits verres en cristal. Klein l'imagina à genoux, répandant l'encaustique sur le parquet et le frottant avec lenteur pendant que sa tante regardait par la fenêtre, toutes deux silencieuses. Il détesta le bruit profond du carillon qui sonnait même les quarts d'heure. En la quittant, il s'avoua, et ce n'était pas la première fois, qu'il ne comprenait pas les raisons qui avaient conduit sa famille en Algérie. Après tout, l'Allemagne ne serait pas éternelle et ses forêts étaient les leurs. À présent, ses parents élevaient du vin rouge pas très loin du désert. Il s'y était fait avec une souplesse sans phrase. Au fronton de la poste, au-dessous du drapeau impérial, on pouvait lire des caractères gothiques. Bientôt seuls les vieux, comme sa tante, parleraient encore le français. Klein n'aimait pas les vociférations des politiciens de la République. Il avait dit un jour à Pierre, « L'Alsace-Lorraine, c'est comme l'ampoule de Saint-Janvier à Naples. Quand il le faut, on fait couler un peu de sang. » Il voulut revoir les anciennes forges de Jaegertal. Elles sont au fond de l'étroite vallée du Schwarzbach, de part et d'autre de la rivière. On voit d'abord une chapelle, puis, après un tournant, deux bâtiments du XVIIIe siècle. Du premier, il ne reste qu'une façade. Le second est presque intact, avec son fronton de bois, sa cloche et la date de la construction dans une sorte de cartouche sur fond vert. Au début du siècle, déjà les maîtres de forge avaient transporté leur industrie un peu plus loin en aval, et cette partie de la vallée, redevenue paisible, ne résonnait plus que du chant des oiseaux. C'était une paix étrange, celle d'un petit pays déserté. Klein goûtait là une joie mélangée où il entrait de la tristesse, une tristesse imprécise. Il ne s'y refusait pas. Il laissa s'écouler plusieurs heures près de la roue d'un moulin désaffecté. Garnie de 6 ou 8 galets seulement, elle tournait irrégulièrement au gré du flot, et ce bruit d'eau, doux et grave, lui rappelait l'enfance, quand le jaillissement des fontaines arabes l'aidait à s'endormir. La nouvelle de la mort d'Alcossé ne l'atteignit qu'un jour plus tard. On lui avait câblé poste restant à Niederbronn. Le professeur aurait pu vivre 10 ans dans cet état trop avancé pour qu'il subsiste aucun espoir de rémission. Il s'était brisé la tête contre un mur. On l'avait découvert à 6 heures du matin, assis contre le mur ensanglanté, les bras étendus de chaque côté du corps et le regard droit. Personne à blâmer, se dit Klein. Enfin, peut-être une surveillance plus stricte aurait-elle permis de prévenir son geste. Il admit pour finir que c'était mieux ainsi. Ce propos ne suffit pas à le rasséréner. Dans l'après-midi, il reprit le premier train pour la frontière. Les douaniers feignirent de s'étonner que, venu par la route, il repartit par le train, mais il leur expliqua qu'il aurait de beaucoup préféré rentrer par le même chemin, et il ne pouvait savoir comme il était sincère. Lorsqu'il retrouva Augustin à la brasserie des bords du Rhin, il remarqua simplement « Tu as bien fait d'acheter cette maison » et son ami crut comprendre ce qu'il voulait dire. 13 Romains bien. Le mal est sans raison. Klein battait la semelle devant la statue de Jeanne d'Arc, celle de la place Saint-Augustin. À entendre ces mots, Pierre se demanda s'il avait voulu dire qu'on ne peut expliquer la folie, ou si son propos allait plus loin. Les traits de Klein demeuraient immobiles, et cette immobilité lui conférait une dignité particulière. Il s'était vêtu, portait un manteau gris, un col dur, un costume de serge noir, une cravate de la même couleur. « Il en faut pour apprivoiser le faune », pensa Augustin. Jacques avait l'air recueilli, ce qui surprit son ami, qui l'avait toujours vu rire des situations les plus dramatiques. Froid, café, à certains moments, Klein s'exprimait par interjection. Augustin et lui s'engouffrèrent dans le café qui fait l'angle de la rue de la Pépinière, un aimable commerce qu'on dirait replié sur lui-même, impressionné par la masse voisine du cercle militaire, bâtiment trop haut aux façades semées de faisceaux, d'écussons, de canons, de cuirasses, et voué en plein Paris, aux plaisirs amés de la vie de garnison. Ils foulèrent avec plaisir là.